Décryptage. Anne Cantner.
Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la pandémie de coronavirus, une crise sanitaire, économique et politique aussi parfois. En France, plus d'une personne sur deux ne fait pas confiance au gouvernement pour gérer l'épidémie. Les efforts de transparence affichés par le gouvernement ne suffisent pas. Beaucoup pensent que les autorités leur mentent et les déclarations parfois contradictoires, par exemple à propos du port du masque, n'aident pas vraiment à rétablir cette confiance. Comment rétablir un lien entre ces Français qui doutent et le gouvernement? Qu'en est-il dans les autres pays européens les plus touchés par le coronavirus? La parole politique est-elle autant remise en question qu'en France? On en parle pendant les 20 prochaines minutes avec mes invités. Bonjour Bruno Jambard.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Nous sommes aussi en ligne ce soir avec le journaliste Sacha Mitchell. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour Courrier International où vous êtes en charge notamment de l'actualité du Royaume-Uni et de l'Irlande. Donc vous nous direz si la défiance est aussi grande dans ces pays qu'en France, parce qu'en France c'est très net. En une semaine, les courbes de confiance se sont inversées et aujourd'hui, Bruno Jambard, la majorité des Français, en fait, ne font pas confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie.
Oui, tout à fait. 54% des Français nous disent ne pas faire confiance au gouvernement hein, dans ce domaine, contre 44% qui lui font confiance. Et vous l'avez dit, la situation a basculé très vite d'une situation positive qui était celle du 23 mars, hein, quand on a commencé à mesurer quotidiennement cet indicateur, soit quelques jours après le début du confinement. Dès le 27 mars, on était, dans une majorité de Français qui avaient un sentiment négatif hein, vis-à-vis de l'action du pouvoir, qui montre à quel point la défiance s'est très très vite installée dans l'opinion française à l'occasion de cette crise, alors que traditionnellement on voit plutôt dans ces moments-là une sorte de ralliement de l'opinion publique autour du pouvoir qui fait bloc parce que c'est un moment d'unité nationale et on a plutôt tendance à avoir des augmentations de confiance que ce phénomène-là.
Alors qu'est-ce qui explique cette inversion des tendances en seulement une semaine, Bruno Jambard ?
Je crois que il y a plusieurs raisons. Il y a une raison fondamentale qui est le fond de défiance politique très fort qui existe en France et qui est beaucoup plus fort en France que par rapport à d'autres pays. Dans l'enquête qu'on fait annuellement avec le CEVIPOF, on a vu cette année où on a comparé la confiance politique en France à celle qui a lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, que la France était très très loin en termes de confiance politique. On a des niveaux particulièrement faibles de confiance à la fois dans les acteurs politiques comme les partis politiques, mais aussi dans les gouvernements, et seuls les pouvoirs locaux résiste à cette défiance politique. Et donc, dans ce fond de défiance, très vite, ce fond de défiance a repris le dessus dans la crise. Et puis, la deuxième raison, c'est, vous l'avez dit en introduction, c'est que il y a eu un sentiment d'injonction contradictoire très fort qui a eu lieu dans le pays, et notamment qui s'est cristallisé autour de cette question du premier tour des élections municipales, avec à la fois un gouvernement qui commençait à alerter très fortement sur la dangerosité, la viralité du coronavirus, et le risque de se le transmettre, et puis un encouragement à se rendre dans les bureaux de vote, à aller voter. Et cet élément-là, quand il a fallu très vite, au lendemain du premier tour, annuler le second tour, a paru très étrange à beaucoup de Français et à mon avis, a largement contribué à ce basculement de l'opinion publique.
Sacha Mitchell, vous qui connaissez bien le Royaume-Uni, l'épidémie progresse vite, très vite, là-bas aussi. 439 décès aujourd'hui, plus de 5000 en tout. Est-ce qu'on observe la même défiance à l'encontre du gouvernement ?
Eh bien, au Royaume-Uni, c'est plutôt l'inverse selon les derniers sondages d'opinion. 52% des Britanniques ont une opinion favorable de l'action du gouvernement. Et en fait, c'est la proportion la plus élevée depuis quasiment 10 ans. Effectivement, ça peut paraître paradoxal au vu du rythme de progression de l'épidémie. Et ça ne veut pas forcément dire que le gouvernement gère bien cette crise. L'un des révélateurs que l'on peut citer, c'est la manière dont la presse conservatrice la plus fidèle à Boris Johnson et à son gouvernement a commencé à devenir de plus en plus critique la semaine dernière, notamment sur la stratégie qui porte sur les tests. Le gouvernement avait promis d'augmenter drastiquement le nombre de tests effectués chaque jour dans le pays. Résultat, ça n'a pas bien fonctionné du tout. On plafonne encore à 10 000 tests par jour alors que le gouvernement en promettait 25 000 par jour au cours du mois d'avril. Donc, ça ne veut pas forcément dire que le gouvernement gère bien la situation. En
Oui,
revanche,
d'autant plus
il
que
y a
le Premier
effectivement.
ministre Boris Johnson a beaucoup fait évoluer son discours et la réponse à cette épidémie. La stratégie aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'au début.
Alors effectivement, d'ailleurs, au début, il était question de tester beaucoup plus que par la suite. Il était question de tester assez massivement dans la population et ensuite, il y a eu un revirement pour, on va dire, une stratégie d'immunité collective, à savoir de laisser se propager le virus dans la population. Et ensuite, fin mars, entre le 19 et le 23 mars, il y a de nouveau eu un revirement avec d'abord la fermeture des pubs et des restaurants et ensuite un confinement strict imposé à partir du 23 mars. Mais même à ce moment-là, la population britannique, a soutenu cette mesure. 9 Britanniques sur 10 ont été satisfaits de la manière dont a été imposé, en tout cas, ce confinement. Voilà, d'autant plus que Boris Johnson est actuellement hospitalisé. Il y a quand même une sorte de parfum d'unité nationale au Royaume-Uni. Keir Starmer, qui est le nouveau leader du Parti travailliste, a tendu la main, ou en tout cas a dit qu'il travaillerait avec Boris Johnson. En revanche, il y aura très certainement une enquête indépendante sur la manière dont cette crise a été gérée une fois que l'épidémie sera passée, c'est sûr, parce que même en interne au gouvernement, les derniers échos font état de divisions assez importantes sur la manière de gérer la crise, et dont le pic est d'ailleurs attendu dans la semaine, dans les jours à venir.
Donc une enquête probablement plus tard, mais en tout cas pour l'instant, le mot d'ordre, l'appel à l'unité semble assez entendu, alors qu'en France, on le disait il y a quelques instants, la défiance augmente. Bruno Jambard, vous nous rappeliez que le phénomène n'est pas nouveau dans le pays, que le phénomène était déjà plus fort en France qu'ailleurs en Europe avant même cette crise du coronavirus. Est-ce que vous avez pu observer dans vos enquêtes qui étaient les personnes qui se méfiaient le plus du gouvernement? Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant?
Alors, je dirais qu'il y a deux réponses à cette question. Une réponse sociologique, et on retrouve sociologiquement des catégories de population qui sont très critiques vis-à-vis du pouvoir et des pouvoirs en général, hein, quelle que soit leur couleur politique. Donc, vous avez par exemple une défiance beaucoup plus forte au sein des catégories populaires qu'au sein des classes moyennes et classes supérieures. Par exemple, seulement 36% des employés et ouvriers font aujourd'hui confiance au gouvernement pour limiter les effets de la pandémie, contre 44% de l'ensemble des Français. Donc, c'est une différence très importante. On a aussi, je dirais, sociologiquement, on le voit, parmi les gens qui ont les niveaux de diplôme les plus faibles, aussi une défiance supérieure. Donc ça, c'est, je dirais, une réponse sociologique et qu'on retrouve qui renvoie vraiment à cette défiance politique forte, quel que soit le sujet, et pas seulement sur cette question du coronavirus. Et puis, il y a une autre défiance qui s'exprime et qui est plus problématique et qui explique la difficulté de l'opinion publique française à se rallier derrière le gouvernement, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. C'est une fracture politique très forte. Dans le fond, aujourd'hui, seuls les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2017 pensent que le gouvernement agit bien pour limiter les effets de la pandémie. Et on voit que les électeurs qui n'ont pas voté pour lui, notamment ceux qui ont voté évidemment pour Marine Le Pen, mais aussi pour Jean-Luc Mélenchon, sont très défiants. Seulement 23% des électeurs de Marine Le Pen pensent que le gouvernement font confiance au gouvernement là-dessus, seulement 34% pour ceux de Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit bien aussi la difficulté, c'est que il y a une cristallisation politique qui s'exprime sur le sujet du coronavirus, comme elle s'exprimerait sur autre chose, et donc il n'y a pas du tout de sentiment de nécessité de faire front et de soutenir le gouvernement dans cette crise majeure.
Alors, on sent que le gouvernement pourtant essaie depuis quelques jours de changer un petit peu de discours. Le mot d'ordre maintenant, c'est la transparence, notamment sur la question des masques. Bruno Jambard, le Premier ministre, a admis à la télévision il y a quelques jours que le gouvernement avait bien du mal à s'approvisionner.
Oui, effectivement, c'est une des difficultés aussi en termes de confiance que rencontre le gouvernement, c'est ce sentiment d'évolution du discours, un peu, je dirais, sous la contrainte. On l'a vu à l'occasion de la question du premier tour des municipales, on le voit aujourd'hui à l'occasion de cet enjeu des masques, où les gens ont retenu pendant longtemps que les masques n'étaient pas utiles, hormis pour les personnels soignants, et que maintenant, on commence à nous conseiller de mettre des masques. Et donc, il y a un sentiment que finalement, si on a déclaré inutiles les masques, c'était parce qu'on n'en avait pas plus que parce qu'ils étaient inutiles eux-mêmes. Et on a eu un peu le même phénomène la semaine dernière autour de la question du nombre de morts, où on s'est rendu compte tout d'un coup dans l'opinion publique que le nombre de morts qui était décliné chaque soir par les autorités n'était pas le nombre de morts total, mais le nombre de morts à l'hôpital, ce qui n'avait pas été dit dans un premier temps. Et donc, on voit que cette volonté de faire de la transparence du gouvernement, elle se retourne souvent contre lui parce qu'elle montre aussi à quel point la transparence absolue et totale sur ce sujet est très compliquée, ne serait-ce que parce que la découverte des pouvoirs publics autour du virus, autour de ses conséquences, de sa transmission, de son évolution, elle peut elle-même changer d'un moment à l'autre parce que, évidemment, le gouvernement sur ce sujet apprend en même temps que le virus progresse.
Sacha Mitchell, j'aimerais que l'on parle avec vous d'une prise de parole très particulière au Royaume-Uni, puisque on le disait, en France, on a entendu beaucoup le Premier ministre, plusieurs ministres, le Président. Hier, c'est la reine Elisabeth II qui s'est exprimée, ce qui arrive très rarement. Comment est-ce que sa parole est perçue par rapport à celle du gouvernement ?
Eh bien justement, c'est une parole qui a une force très importante et une force dont ne dispose pas le gouvernement, c'est la force de sa neutralité, en fait. La reine, c'est une voix qui, depuis 70 ans de règne, s'élève au-dessus de toutes ces considérations, et ça facilite en quelque sorte cet appel à l'unité, à la résilience, à la possibilité d'entrevoir à terme un avenir meilleur. Et c'est vrai, c'est comme vous le rappeliez, c'est un événement rare, ce n'est que la quatrième fois en 70 ans qu'elle s'exprime de la sorte à la télévision, dans une adresse à la nation, et ça souligne, et c'était une manière aussi de souligner, alors que, comme on le disait, Boris Johnson est lui-même malade, de souligner la gravité du moment.
Est-ce qu'elle a un poids particulier qui dépasserait la parole politique ? Vous le disiez, il y a un appel à l'unité. Est-ce qu'elle bénéficie d'une confiance supérieure à celle du gouvernement ?
Absolument, c'est une figure qui est très populaire. Son allocution, hier soir a été suivie par 22 millions de téléspectateurs. Ce matin dans la presse, cette allocution a été saluée quasi unanimement. Donc elle a une voix qui porte, une voix qui est aussi porteuse d'espoir, alors que le confinement au Royaume-Uni entre dans sa troisième semaine et qui devait durer 3 semaines et qui sera probablement étendu au-delà de cette période.
Bruno Jean-Bart, comment ça se passe dans les autres pays européens les plus touchés ? Je pense à l'Italie et à l'Espagne, par exemple.
Alors, ça se passe souvent de manière assez différente de ce que l'on voit en France et plus proche de ce qu'on voit au Royaume-Uni. L'Italie étant l'exemple le plus frappant, hein. La popularité du Premier ministre Conte a explosé depuis la crise du coronavirus et a progressé très très fortement. On a environ 70% des Italiens aujourd'hui qui le soutiennent. Et on voit bien qu'on a là eu aussi un phénomène d'union nationale dans cette crise des Italiens. En Espagne, c'est plus compliqué. C'est plutôt la stabilité qui règne et on n'a pas connu le même phénomène. Alors, il faut dire aussi que l'Espagne sort d'élections et d'un moment très long pour choisir son gouvernement, et donc a aussi une cristallisation et une polarisation politique très forte, notamment liée aussi aux tensions entre les régions. Mais globalement, dans la plupart des pays, on observe plutôt un phénomène favorable au pouvoir en place, ce qui n'est pas réellement le cas ou pas aussi fortement le cas en France pour les raisons qu'on a expliquées auparavant.
Et comment on l'explique pour l'Italie et pour l'Espagne ? Parce que la situation y est très grave. Le gouvernement a pu paraître à certains moments un peu dépassé, comme peut le sembler le gouvernement français, qui apprend en cours de route, comme vous nous disiez tout à l'heure. Comment ça se fait que la perception soit si différente ?
Je crois qu'il y a une des raisons tient en fait que dans ces pays, on est face à des gouvernements de coalition et donc qui rassemblent plusieurs familles politiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Avec notre système extrêmement majoritaire, on a un gouvernement d'un bloc face à d'autres. En Italie, vous avez à la fois le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles qui gouvernent ensemble. En Espagne, c'est Podemos et le Parti socialiste. Donc on est sur des phénomènes un peu différents, en plus des gouvernements qui ont été investis plus récemment que le gouvernement français, qui est maintenant à plus de 8 mandats et donc qui approche de la fin de son terme. Donc il y a aussi ces phénomènes-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis il y a, c'est vrai, il faut le dire, en France, une cristallisation très forte qui s'est opérée depuis maintenant un an et demi autour de la personnalité d'Emmanuel Macron, qui clive énormément l'opinion publique française, et on voit bien que même dans cette situation, il n'a pas réussi à incarner ce qu'aurait imaginé être le président de la République dans l'esprit du général de Gaulle, c'est-à-dire cette personnalité politique au-dessus des partis. En fait, aujourd'hui, le président en France, et ça ne remonte pas à Emmanuel Macron, il n'est plus au-dessus des partis, il est le chef de la majorité, et donc il n'a pas le bénéfice que peut avoir la reine d'Angleterre quand elle prend la parole, de pouvoir parler de manière plus neutre, plus rassembleur à sa population.
Cette défiance qui existe, qui est très forte en France, ces doutes concernant la parole publique, la parole officielle, se mesurent aussi au nombre de fausses informations qu'on voit émerger un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Sacha Mitzel, on a vu par exemple des incendies criminels d'antennes téléphones à cause d'une théorie du complot.
Absolument, on les a observés ces derniers jours, une vingtaine au total, nous apprend d'ailleurs ce matin The Times. Alors cette théorie du complot, elles se sont effectivement répandues sur les réseaux sociaux, et elles disaient en gros que ces antennes 5G affaiblissaient les défenses immunitaires et donc favorisaient la propagation du coronavirus. C'est une rhétorique qu'on entend assez souvent à propos de la 5G. Là, elle se concrétise avec un virus particulier. Et du coup, le gouvernement britannique, en tout cas les autorités britanniques, ont demandé aux plateformes et aux réseaux sociaux de faire plus attention à la manière dont était promu ce genre de contenu. YouTube y a d'ailleurs répondu de manière favorable en disant que la plateforme allait retirer de ses recommandations les vidéos qui faisaient un lien entre antenne 5G et coronavirus. Mais effectivement, c'est quand même une certaine défiance, ce genre d'acte. C'est une défiance aussi vis-à-vis des autorités, il faut le dire. Et donc oui, on a vu ces actes-là ces derniers jours au Royaume-Uni.
Bruno Jambard, on entend aussi un certain nombre de théories du complot en France. Vous montriez dans votre étude que près de 2 Français sur 3 pensaient que le gouvernement leur mentait. Est-ce que, alors il nous reste une trentaine de secondes, c'est un peu difficile de vous poser cette question avec aussi peu de temps pour répondre, mais est-ce que cette défiance peut amener certains Français à ne pas respecter les consignes ?
Oui, probablement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés dans l'application des consignes. C'est aussi une des raisons pour laquelle il y a des débats aujourd'hui qui s'imposent en France autour des traitements, par exemple autour de ce que propose le professeur Raoult. On voit bien que ça fonctionne aussi dans la même logique que ces théories du complot, avec des Français qui, d'un certain point de vue, pour une partie d'entre eux, pensent qu'il y a une médecine officielle qui est celle des sachants, et puis une médecine du terrain qui serait plus pragmatique, plus proche du bon sens populaire et plus proche du peuple, qui l'incarnerait et que le gouvernement essaierait de bloquer cette médecine-là.
Ce qui s'applique aussi d'ailleurs à certains médias par moment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Sacha Mitzel, journaliste à Courrier International, et Bruno Jambard, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Merci à toute l'équipe de Décryptage et merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de RFI.